Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones.
Un frais salé, c'est le cépage endémique de notre appellation.
Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue.
Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Situé aux confins de la Sarthe et de l'Indre-et-Loire, le domaine La Grapperie de Renaud Guettier est un peu isolé au sein des terroirs de l'appellation des Coteaux du Loir. Une appellation qu'il ne revendique d'ailleurs pas, alors qu'il pourrait certainement en être l'un de ses fers de lance. Domaine La Grapperie, Renaud Guettier, entre la Loire et le Loir.
Renaud ?
Oui ?
Ah, il est là. J'étais en haut, tu étais en bas. Bonjour !
Salut !
Enchanté.
Enchanté.
J'ai beaucoup de retard, je crois que je peux dire que j'ai battu mon record de retard sur un domaine en venant te rendre visite, rattrapé par un repas sartois et de la charcuterie sartoise. Ah. Est-ce que c'est une erreur quand on est dans l'Indre-et-Loire ?
C'est l'embuscade. C'est l'embuscade et en plus c'est entre les rillettes de la Sarthe et les rillettes de Tours, on est forcément pris en étau quoi.
Parce que sur ton domaine, on n'est pas dans la Sarthe pour le coup.
Non, on est dans l'Indre-et-Loire, on est à 2 km de la Sarthe.
Mais malgré tout dans l'Indre-et-Loire.
On est encore dans l'Indre-et-Loire. Sur 16 communes classées sur l'appellation Coteaux du Loir, il doit y en avoir quand même au moins, je sais pas, 6 ou 7 qui font partie de l'Indre-et-Loire, mais il n'y a plus aucun domaine, en fait il reste quasiment plus de vignes. Hein.
Il n'y a plus de domaine basé en Indre-et-Loire, si, quand même.
Il n'y a plus de domaine basé en Indre-et-Loire, à part moi, encore. Enfin, sur l'appellation Coteaux du Loir, j'entends.
Quand on est arrivé jusqu'à ton domaine et on a fait un peu plus de route que prévu, bah, on n'a pas croisé de vignes, en fait. Elles sont où, les vignes ? Elles se planquent où ? Il y a vraiment des vignes dans ton coin ?
Bah ouais, il y en a. Après, les vignes, elles sont toujours un peu planquées. Elles sont souvent sur les hauts de coteaux et elles sont derrière les zones boisées. Puis bah, il faut savoir que l'appellation Coteaux du Loir, sur les 1500 hectares qu'il y a de classés, il n'y a plus que 150 hectares plantés. Alors il y a un noyau dur là-bas autour de Janières en fait, et puis autour de Chaigne, Aurier, Marçon. Mais bah, dès qu'on s'éloigne un peu dans les communes limitrophes, bah, les vignes, ça réduit comme peau de chagrin, donc il en reste très peu. Et c'est nous sur Bueil, il y a quand même 40 hectares classés sur l'appellation, mais quand je suis arrivé, il restait 20 ou 30 arts plantés que j'ai récupérés, que j'ai d'ailleurs arrachés parce qu'elles étaient en mauvais état. Maintenant, j'ai replanté, donc là, on a 3 hectares, un peu plus de 3 hectares à Bueil.
Alors, quelle mouche t'a piqué de vouloir t'installer dans un endroit où il n'y a quasiment pas de domaine, en fait ?
Ah, c'est parce que je suis venu ici pour... c'est ma femme qui est de Bueil-en-Touraine. Après, je suis arrivé ici un peu par hasard, enfin, par hasard, donc à cause de mon épouse, mais...
Grâce ?
Grâce à elle, plutôt. mais bon, c'est en baladant sur les coteaux ici, en voyant les caves. Moi, je suis du Vendômois, donc on a à peu près les...
Pas très loin non plus.
On a les mêmes terroirs, voilà, on est à 50 km. Je trouvais ça dommage, justement, qu'il y ait plus ce potentiel. Enfin, vu le potentiel qu'il y a, que les vignes étaient arrachées, quoi. Il y a un potentiel de cave, de vinification, il y a un potentiel énorme.
Il y a un ancrage vigne ici qui est prégnant, qu'on retrouve partout.
Le grand-père de ma femme avait des vignes, enfin, comme sur toutes les fermes à l'époque, avant la guerre, toutes les fermes avaient leurs 1, 2 ou 3 hectares de vignes. Quoi.
Juste à côté, il y a ton chai, ou une partie de ton chai, là, donc la partie par laquelle je suis arrivé, un côté moderne, et là, quand on est ici, c'est une partie qui est beaucoup plus ancienne. Là. Je pense qu'on l'entend déjà, on est dans une cave voûtée dans le calcaire, et c'est une cave qui remonte à quelle époque ?
Bon, bah, les caves, on ne sait pas très bien de quand elles remontent, elles ont été creusées progressivement depuis le Moyen-Âge, comme un peu partout, chaque génération a creusé face à sa part. Quoi. Moi, j'ai fait un peu la mienne aussi, on a quand même recreusé, on a consolidé, on a construit une partie moderne au-dessus des caves, ce qui nous permet d'avoir un chai et des caves de vinification par gravité. Ce qui est quand même un bel atout, vu qu'on est à flanc de coteau. On peut s'affranchir de pas mal de pompes et tout. Donc ça, c'était un truc qui me tenait à cœur. Mais oui, je voulais garder ce truc traditionnel de pouvoir vinifier en barrique, en cave, pour travailler en petit volume, et pour faire des élevages longs. Mais à côté de ça, se pouvoir travailler dans des bonnes conditions, dans un chai, pouvoir pressurer, pouvoir assembler. Et surtout qu'on a le chai en fait, qui est climatisé par l'air de la cave. Quoi. On refroidit aussi le chai grâce à la cave.
Et des caves comme la tienne, dans le coin, c'est pas rare.
Il y a plus de caves que d'habitants, je crois.
Il y a beaucoup de caves qui ne servent plus.
Ah, il y a beaucoup de caves abandonnées. Ouais. Il y a des caves, bon, les gens, il y a une mode où les gens achetaient des caves encore dans le coin pour stocker des vins, même des Parisiens qui avaient des maisons secondaires et tout. Mais bon, les mecs se faisaient braquer leurs caves, les vins vieillissaient, bon, les étiquettes pourrissent en cave et tout. Donc, ça a été progressivement abandonné. Quoi.
Donc, les problématiques de trouver des locaux pour faire du vin dans cette partie de la Loire, c'est pas compliqué de trouver des locaux ici?
Bah après, les gens ne se servent plus de leur cave, mais c'est une histoire de famille et tout. Et rien que pour acheter des caves, c'est souvent très, mais très compliqué. Moi, j'en ai acheté maintenant quand même 6, là.
6 caves ? Une ne te suffisait pas ?
Bah, on a la cave pour vinifier, mais après, disons que quand on bouche les vins, on essaye quand même de garder les vins en bouteille un peu avant de les commercialiser, qui finissent l'élevage. Alors, autant que faire se peut, parce que bon, on est toujours rattrapé un peu par les soucis de trésorerie et de vente obligés. On a des caves où on stocke les pétillants sur latte, on a d'autres caves où on stocke les blancs, suite aux mises en bouteille, et puis aussi les rouges. On a des caves qui servent un petit peu pour les millésimes, pour les vieux millésimes, et les magnums, les gros volumes.
Il te fallait 6 caves pour tout ça.
Bah, disons que ce qu'il y a, c'est que les caves, souvent, ça nous permet d'acheter des esplanades parce que chaque cave a son petit bout de terrain qui est devant ou alors au-dessus. Et donc, bah, si on laisse une cave qui est dans le milieu et qui va appartenir à quelqu'un d'autre, bah, ça veut dire que devant aussi, on peut rien construire, on peut pas stationner, voilà, il faut être chez soi, quoi.
Dans cette région, on a un ancrage viticole qui remonte à des siècles et des siècles, en témoigne la cave où nous sommes actuellement, et beaucoup de ces caves, beaucoup de cette histoire viticole a pas complètement disparu, mais a été quasiment réduite à néant.
Ah, c'est ça. Mais c'est le cas qu'avec quasiment de beaucoup de communes l'appellation. Hein. C'est grâce à des gens comme Fresneau dans le coin et là-bas sur Marçon qui ont un peu relevé le flambeau parce que l'appellation Janière doit dater de 37. C'était juste après Vouvray qui était de 36. Et puis bon, bah, les Coteaux du Loir sont mis. Il y a eu la guerre entre temps, donc ils ont pu finir de classer qu'en 48, je crois. Dans les années 80, l'appellation a failli disparaître parce que plus personne...
À ce point ?
Ah, il me semble. Hein. Bah, il y avait de moins en moins de vignerons et les gens qui avaient des petits domaines, finalement, ils vendaient tout localement. Bah, les gens ne demandaient plus l'appellation, ils ne voulaient pas s'emmerder. L'INAO ne voulait plus gérer l'appellation, une appellation où il n'y avait quasiment plus personne qui demandait l'appellation.
Et plus de production, du coup.
Et donc, bah, il y avait de la production, mais les gens ne revendiquaient pas l'appellation. L'INAO voulait la faire disparaître. C'est grâce à François Fresneau qui a essayé de relever un peu le flambeau avec... il a essayé de motiver quelques vignerons autour de lui, là. Ils ont refait naître l'appellation, ce qui était quand même une bonne chose.
Un potentiel de 1500 hectares, avec aujourd'hui une centaine d'hectares plantés.
150 hectares plantés, je pense.
Donc il y a de la place pour des personnes qui voudraient s'installer.
Il y a de la place. Après, la difficulté, c'est toujours pareil, l'accès aux fonciers. Et puis, il y a des zones qui se sont boisées, qui sont sur les appellations. Moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir m'installer à Bueil parce qu'en 2004, il y a eu le tracé de l'autoroute A28 Tourlement. Et du coup, la commune a été remembrée. J'ai pu, grâce au membrement, acheter une parcelle de vigne de 2 hectares et demi. S'il n'y avait pas eu le remembrement, il aurait fallu que, pour la même surface, que j'en achète 50. Parce que chacun avait sa petite bande de vignes, bien sûr. Donc,
personne ne voulait la lâcher, cette
et
petite
bande.
Du coup,
les gens, bah, ces terrains-là étaient loués à des céréaliers. Parce que bon, après les vignes, quand elles se sont arrachées, il y a eu aussi beaucoup de fruitiers qui se sont plantés. Et puis après, les fruitiers se sont aussi arrachés progressivement. Et bah, maintenant, c'est des gens qui font des céréales ou alors qui en profitent pour mettre ça en jachère, avec les jachères obligatoires. Vu que c'est des mauvaises terres à céréales, les gens achètent ce genre de terre pour pouvoir mettre ça en jachère.
Et donc, tu arrives ici... 2004, c'est ça ?
Fin 2003, ouais, c'est ça. On s'est installé vraiment. Au début, on était encore à Dijon et on venait travailler un peu les vignes. Le premier hectare qu'on a acheté, enfin la première parcelle qu'on a acheté, le demi-hectare, fin 2003, début 2004.
Pour ce qui te concerne, tu n'es pas du tout natif de la région ?
Pas de la région, pas du département en tout cas, de la région, de la grande région centre, oui, mais moi je suis vendômois, donc c'est à 50 km, un peu plus en amont, sur le Loir.
Tu n'as pas eu envie de t'installer dans le vendômois ? Tu nous expliquais que ton épouse était, était d'ici de Bueil. Tu n'as pas réussi à la convaincre de t'installer sur tes terres natales ? Tu t'es incliné devant sa décision ou c'est juste une question d'opportunité peut-être ?
Non, c'est vraiment une question d'opportunité, parce que moi, je ne pensais pas du tout m'installer vigneron à l'époque. J'avais fait des études, moi j'ai des parents qui sont enseignants, qui sont pas du tout dans le milieu agricole, donc on n'avait pas de terre du tout à disposition. C'est après, on a décidé de changer un peu de cursus. Moi, j'étais plutôt formé pour aller faire de la recherche en physiologie des plantes. J'avais pas envie finalement de finir dans un labo à travailler sur des OGM, puisque c'était le plein boom à l'époque, début des années 2000. Donc après, quand même, quelques parcours initiatiques à l'étranger.
Sur des domaine ?
Non, non, là pour faire du développement, parce que moi j'étais passionné de vin, mais je n'aurais jamais pensé m'installer à l'époque. On s'est dit qu'on n'allait ni faire de la recherche, ni faire du développement.
Donc, tu dis-nous, donc c'est avec ta femme ?
Avec ma femme, oui, on ne savait pas trop ce qu'on allait pouvoir faire. Son père, lui, qui était exploitant agricole, mais qui n'avait pas de domaine viticole, qui était juste en polyculture élevage, allait partir à la retraite dans les années qui venaient, et du coup allait pouvoir laisser peut-être un peu de terre, des bâtiments, une maison d'habitation qu'on allait pouvoir racheter. Si on n'allait pas faire de recherche ni de développement, qu'on allait essayer de revenir à la production.
Faire des recherches sur les vinifications.
Des recherches directement, sans passer par un labo, qu'on allait faire nos propres recherches.
Vous vous installez tous les deux en autodidacte ou formez un petit peu avant toute chose ?
Moi, sachant que j'allais m'installer sans sous, j'ai repris un cursus quand même pour pouvoir m'installer avec les aides. J'avais déjà un bac plus 5, donc pour m'installer, j'ai refait une demande pour intégrer une école d'ingénieur. Donc j'ai fait une école d'ingénieur de Dijon.
Un GAGRO du coup ?
Un GAGRO, Dijon. Ce qui me permettait, donc là en intégrant en quatrième année, et donc ça me faisait un cursus d'un an et demi, plus 6 mois de stage derrière, ça me permettait d'avoir un autre bac plus 5, et ce qui, celui-là, me permettait de m'installer avec les aides. Mais alors après, c'était un diplôme qui était assez généraliste au niveau ingénieur, puisque je savais que aussi, j'allais repartir de zéro au niveau des vignes, et que du coup, j'allais quand même, pour les banques, il s'agissait quand même de les convaincre, donc du coup, de développer la partie viticole, mais de s'appuyer aussi sur la partie céréales et élevage. Donc je me suis installé au début, moi, que en 2004, de 2004 à 2007, que sur la partie viticole. Et à partir de 2007, mon beau-père est parti à la retraite. Et là, j'ai repris sa ferme, que j'ai fait évoluer progressivement, mais qui existe toujours.
Donc
j'ai
toujours. Tu n'es pas que vigneron ?
Je ne suis plus éleveur parce que c'était un peu compliqué de faire les trois activités, mais j'ai toujours une partie céréale.
Partie importante ?
Partie importante par rapport aux vignes, aux surfaces en vignes, on trouve toujours que c'est important, mais j'ai réussi à troquer avec des voisins une partie quand même aussi des terres à céréales qui étaient les moins bonnes et les plus loin de l'exploitation pour pouvoir m'agrandir un petit peu sur le coteau à Bueil. Ça vient de se faire il y a quelques années parce que c'est toujours très long ce genre d'échange. Maintenant, c'est-à-dire que sur Bueil, j'ai 13 hectares là, d'un seul tenant où on peut potentiellement replanter en vigne. Je suis protégé du gel, peut-être à l'avenir avec une éolienne. En tout cas, on va avoir un vignoble groupé et on a le potentiel de pouvoir planter.
C'est dans tes ambitions ou tu veux rester sur l'échelle que tu as aujourd'hui ? Ou c'est plus une protection comme
ça ? Je pense pas qu'on plante. Sur les 13 hectares, on a déjà 3 de plantés. Et puis là, sur les 10 hectares qui restent, il y en a 5 hectares qui seraient potentiellement plantables en raisin de qualité sur l'aire d'appellation. Après, moi, je me vois pas planter tout ça. Non, j'ai envie. De toute façon, puis s'il s'agit pas de planter, après, il faut aussi dimensionner à nouveau le chai, la cave. On sait pas. Moi, j'ai 3 enfants. Peut-être qu'un jour, ils font du vin, s'ils ont envie de s'installer.
S'installer dans un no man's land viticole quand tu arrives, c'est un pari un petit peu audacieux, objectivement.
C'est pas facile, notamment au niveau des équipements, au niveau des fournitures. Il faut filer à Amboise, il faut filer à Angers, à Tours. Il faut avoir tout son matériel, parce qu'on peut échanger du matériel avec personne, parce qu'on est à 15-20 km des autres cumas qui pourraient exister. C'est pas aisé, en effet, c'est pas aisé.
Comment t'as regardé tes voisins de Janières ou des coteaux du Loir plus largement On s'est pas dit, mais c'est qui cet hurluberlu là, qui débarque comme ça ?
Comme on est un peu loin, moi je suis de nature assez solitaire, donc ça me pose pas tellement de problèmes. Et quand des fois je me trimballe un peu chez eux là-bas, et je vois que chacun parle sur les uns et les autres parce qu'ils ont tel voisin qui laisse lui qui a du mildiou et l'autre qui a de l'oïdium, et s'il en a c'est de sa faute, et lui il a de l'herbe, et lui des herbes, et machin. Moi au moins je suis un peu tout seul, j'ai pas de voisin, ou 2-3 papilles, et puis le reste c'est des terres qui sont en friche, qui sont en jachère, ou qui sont des zones boisées. Je suis assez peinard finalement.
Ça te va bien en tout cas ?
Ouais, moi ça me convient pas mal.
Donc aujourd'hui, sur les presque 7 hectares que tu as en production, tu ne vends que des vins en vin de France et malgré tout, tu nous parles des coteaux du Loir. On sent une forme d'attachement malgré tout. C'est juste pour des questions administratives et pratiques que tu ne t'es pas inscrit dans cette démarche. D'autres vignerons locaux m'ont parlé de toi en me disant que tu faisais partie des réunions, etc., et que tu étais aussi impliqué dans la vie des viticulteurs locaux.
Oui, alors je ne suis pas tellement impliqué. Bon, j'essaye de me déplacer quand c'est nécessaire. Après, moi, j'ai commencé à faire de l'appellation quand je me suis installé. En 2004, j'ai déclaré un peu d'appellation. 2005, peut-être même jusqu'en 2006. Mais en tout cas, j'ai définitivement arrêté en 2007. Plutôt parce que je faisais certains types de vinification qui, comme on vinifie en nature, sans soufre, et qu'on élève les vins jusqu'à 2, 3, 4, 5 ans, on a des profils de vins qui sont complètement différents différent de ce que font les autres qui ont eu tendance à sortir des caves et pour faire des vins en cuve inox, en chai. Donc c'est vrai, quand on présentait mes vins sur l'appellation, on entendait un peu les défauts, tout est contraire, c'est trop oxydé, c'est trop réduit, les vins sont vraiment en décalage par rapport à ce qui se faisait. On avait certaines parcelles qui à l'époque n'étaient pas sur l'appellation, soi-disant, il y avait des problèmes de cartes, comme les communes avaient, certaines mairies des communes avaient brûlé, les cartes n'étaient plus à disposition, c'était encore pas l'époque où Géoportail était si facile d'accès, donc il fallait montrer patte blanche, refaire classer les zones.
Beaucoup de paperasse, d'administratif pour pas un changement radical derrière.
C'est ça, et puis de toute façon on avait quand même, j'avais à l'époque un petit peu de gros lot, donc j'étais obligé de le mettre en rosé, donc de sacrifier des zonis centenaires à faire du rosé alors qu'on pouvait faire des très beaux rouges, tout ça pour la bêtise de l'appellation, se voir refuser des vins des fois pour 1 gramme de sucre résiduel dans une cuvée sur les premiers millésimes, des vinifications pétillant naturel donc qui sont pas admis sur l'appellation de toute façon. Enfin, donc ça faisait beaucoup de complications, et puis en plus il faut savoir qu'il faut déclarer l'appellation dès le mois de novembre. Et donc nous, on est déjà 2 ans, 3 ans avant les mises, donc on ne sait pas du tout si les vins vont pouvoir être sur l'appellation, être dans les clous. On sait très bien que les normes changent, les viticulteurs, en fonction de l'année qu'ils ont fait. À l'époque, par exemple, il ne fallait pas dépasser des volatiles à 0,6 ou 0,7, alors que nous, on fait des élevages en fût pendant un an, donc c'était normal qu'on puisse être à 0,8, par exemple. Bon, un tas de choses qui m'ont un peu, pas dégoûté de l'appellation, mais qui m'ont fait sortir de l'appellation. Et puis je me suis aperçu aussi que les vins de France, à l'époque, on était en vin de table. Et ça n'empêchait pas de les vendre. Les gens, en fait, ils n'achetaient pas, justement, ils n'achetaient pas les étiquettes, on ne voulait pas vendre des étiquettes. Donc on voulait vendre des vins de vignerons, des vins d'auteurs. Donc on s'est passé de l'appellation assez vite. Ouais.
Et malgré tout, tu continues de payer tes cotisations sur l'appellation derrière ?
Alors, je paye ma cotisation fixe de forfaitaire, mais comme je déclare pas de vin, je paye pas la cotisation au col qui est à l'hecto. Bon, après, on paye une cotisation à l'année 20 qui est peut-être un petit peu moins chère, je me rends pas tellement compte.
Ça te permet d'avoir un œil, je dirais, sur les coteaux du Loir distancié aussi.
C'est ça. Et puis bon, comme le syndicat est quand même là-bas dans la Sarthe, entre Château et maintenant la Charte et tout, et le suivi météo, le suivi des parcelles, je suis un petit peu à l'écart, je suis un peu plus loin. J'ai pas envie qu'on vienne me contrôler si je taille mes vignes centenaires, si j'ai laissé un œil de plus, un œil de moins. Quand j'ai fait certains contrôles, parfois, j'ai trouvé qu'il y avait des abus d'une part ou d'autre, et ça me motive pas plus que ça pour participer. Et je trouve ça assez dommage d'ailleurs, parce qu'en effet, à l'époque, les Chaussards ou le domaine de Bellivière nous poussaient un peu pour dire si, il faut vraiment relever le flambeau de l'appellation. Et j'étais un peu convaincu, mais je trouve que c'est tellement de peine perdue. Enfin, c'est quand même beaucoup d'investissements personnels, finalement pour pas grand chose. Moi, pour mes 7 hectares, avec les quelques dizaines de milliers de bouteilles qu'on produit, ça va pas changer la face du monde.
Tu nous parlais tout à l'heure de tes vignes de Bueil. On pourrait peut-être aller les voir.
Ah ben on peut aller faire un saut.
Ne bouge pas.
Donc 6 hectares 80, plutôt localisé autour de Bueil.
Moitié-moitié, donc moitié dans l'Indre-et-Loire à Bueil en Touraine que j'ai replanté. À peu près 1,5 hectare de Chenin et 1,5 hectare de Nice. Et puis ces vignes-là sont issues de sélections massales que j'ai fait sur des vieilles vignes.
Du coin ?
Qui sont sur une commune voisine, qui sont à moi aussi, et qui sont à Dissé sous Courcillon. Donc cette commune-là est dans la Sarthe. C'est la première commune dans la Sarthe sur la route de la vallée du Lon.
Dans cette partie des coteaux du Loir, au niveau de la géologie, comment ça se passe ? C'est uniforme ? C'est éclaté ? C'est classique ?
Non, c'est assez...
De ce qu'on se trouve ici, en tout cas.
Ouais, c'est assez classique. De ce qu'on retrouve ici. De toute façon, on est sur la vallée du Loir, qui est la vallée la plus profonde. Et autour de cette vallée du Loir, on a différents affluents. Moi, j'avais des vignes avant là-bas sur la vallée de la Dème, mais que je n'ai plus maintenant. Moi, j'ai mes vignes en fait qui sont vraiment coincées là entre le Lon et le Loir. On a un sous-sol calcaire, comme on a vu dans les caves. Et puis au-dessus de ce calcaire, on a une décomposition d'argile à silex. Puis, en fonction du coteau, on monte en au décoteau, on est à peu près à 120 mètres, entre 115 et 125 mètres. On a une parcelle qui s'appelle le Grand Clos. Et là, on est face à des jeunes zonis là, que j'ai plantés, je les ai plantés en 2019.
Tu as beaucoup replanté depuis que tu es arrivé, du coup ? Si tu disais qu'il ne restait que 40 arts quand tu es arrivé ?
Après, 40 arts, et encore, il y a une parcelle qui m'a échappé, que j'avais taillée au début, et puis finalement qu'on m'a retirée, qui a été arrachée, et puis j'ai récupéré. Qu'est-ce que j'ai récupéré ?
Oui, on t'a retiré ? Comment ça, on te l'a retiré ?
Quelqu'un qui, quand je suis arrivé en 2003, m'avait dit, moi j'ai une vigne, quelqu'un qui était bientôt à la retraite, qui était double actif et tout, qui voulait bien me vendre sa vigne. En tout cas, il aurait bien aimé que sa vigne subsiste un peu. Qu'en 2004, l'hiver 2003-2004, il m'a proposé, si je voulais la reprendre, que je la taille, que je lui ai taillé sa vigne. Et puis une fois qu'elle a été taillée, il m'a dit que c'était bien, elle était taillée, mais finalement, il n'avait plus besoin de moi.
Ah.
Ouais, c'est ça. Il n'avait plus besoin de moi, donc finalement il a fait une dernière récolte et après j'ai appris qu'il avait fait arracher sa vigne et qu'il avait vendu à quelqu'un d'autre.
La classe.
C'est ça. Et là, c'était pour une petite parcelle qui faisait 15 arts, c'était pas grand-chose. D'ailleurs, que j'ai fini par racheter maintenant, cette petite parcelle qui était là-bas, dans un petit coin. Comme maintenant, j'ai acheté le coteau, là, du coup, j'ai fini par l'acheter quand même. Mais...
Et donc là, on est sur une belle parcelle, hein. Il fait quelle surface cette parcelle ?
Celle-là doit faire 2,35 hectares.
Donc ça doit être ta plus grande parcelle, logiquement.
C'est ça, parce que toutes les parcelles de vieilles vignes, les plus grandes, font 60 arts.
Donc là, du Pinot de Nice que tu as replanté quand ?
Cette parcelle-là, c'est 2019. Mais j'ai pas planté 2,35 hectares tout en Pinot de Nice, tout en 2019. Parce que là, on voit que les rangs qui sont donc médians, mais il y a encore là, en dessous du bois, là, il y a encore d'autres rangs plus loin. Il y a d'autres rangs plus loin, au-dessus. Et au-dessus, j'ai un hectare de chenin, voilà, là, en dessous le bois. J'ai des chenins, donc là, qui sont plus sur les hautes pentes, là, donc juste en dessous de la rupture de pente, sur une zone qui est un peu plus argileuse. Là, sur la mi-pente, on est sur une zone qui est un peu plus perrucheuse, un peu plus caillouteuse, où j'ai aussi la 35 quarts là, de chenin. C'est là où c'est un peu plus productif, où je fais les pétillants.
Même sur une parcelle d'un seul tenant, différentes structures de sol, enfin en tout cas des nuances, et tu as adapté du coup ton encépagement en fonction de ces nuances, forcément ?
Bah, on fait des essais, hein. On était allé parler aussi avec les vieux un peu, qui nous disaient qu'il valait mieux planter l'argile, les argiles avec les zonis, quoi, dès que les terres étaient un peu plus lourdes, et les chenins plutôt sur les cailloux. Après, moi j'ai quand même, vu que j'ai quand même là-bas mes 3 hectares sur 10 haies, j'ai beaucoup de petites parcelles, et donc ils sont sur deux coteaux, avec des expositions qui vont de sud-sud-est à sud-sud-ouest, et différents niveaux à différentes altitudes, quoi. Et donc, on s'aperçoit que dès qu'on a de l'argile, ça nous fait des vins un peu plus volumineux, un peu plus riches, un peu plus gras, un peu plus lent au niveau maturité aussi. Dès que c'est sur les pérées, ça va un peu plus vite. Ça fait des vins un peu plus minéraux aussi et plus de fruits. Finalement, on va intervertir un peu parce que là, l'année prochaine, d'ici quelques mois, on va replanter encore 70 ardonis là, dans la continuité des blancs. Donc finalement, on va mettre des rouges aussi à côté des blancs. Donc on va intervertir un peu et puis on verra bien ce qu'il en est. On peut faire un petit saut. Allez.
Mais on a bien fait de sortir en fait, puisqu'on a un paysage un peu de carte postale ici là.
On est au pied de la collégiale de Beuil. Ouais.
Donc là oui, quand on regarde le sol.
On voit qu'on est vraiment, je sais pas, on doit avoir 30-35% de silex. Hein. Ça c'est silex de l'Éocène, je crois. Il y avait une cartographie juste quand je me suis installé. Il y a la cellule terroir viticole qui avait fait toute une cartographie. Alors ils étaient venus ici faire quelques prélèvements et ils avaient fait des cartes intéressantes qui sont disponibles, je crois, au niveau du syndicat.
Et si on va à d'autres parties, on en a moins, plus?
Non, et alors ici on est dans la zone là, de pente là où on en a le plus. Après là-bas on a un peu plus d'argile de bas de pente comme on en appelle. Et puis en haut on a des argiles plutôt de haute pente. Il y a une zone argileuse de chaque côté et puis une zone plus perrucheuse, plus de silex au niveau du centre.
En partant d'une page quasiment blanche, replanter de la vigne, c'est bien parce qu'on peut choisir son matériel végétal, on peut faire des sélections massales, etc. Mais ça a un sacré coût quand même, parce qu'entre le moment où on plante et le moment où on récolte les fruits de ce travail, il se passe de nombreuses années. Comment t'as fait ? Tu avais un bon ami banquier ?
Non. Après, c'est aussi pour ça que justement, on s'est appuyé aussi sur la structure de polyculture élevage que j'ai gardé un certain temps, même si j'ai arrêté l'élevage maintenant, comme je vous le disais. Le fait d'avoir une partie en céréales, ça nous a permis de planter. Et puis après, on a planté progressivement. Et puis on avait déjà quand même nos 3-4 hectares. Parce que en fait, j'avais un peu plus de vieilles vignes avant. J'avais des vignes sur Beaumont-sur-Dème et j'avais des vignes avant jusqu'à Saint-Pierre-de-Chuyer.
Qui était opérationnel.
Donc j'avais un hectare et demi là-bas qui était opérationnel. Donc c'était des très vieilles vignes qui étaient très compliquées à travailler, mais qui nous permettaient de faire un peu de raisin et qui nous ont permis de faire un peu de vin. Avec,
se lancer.
Voilà. Et puis le vignoble sur Dissé, qu'on a récupéré. Certaines vignes étaient déjà en production, étaient productives, étaient à peu près en bon état. Mais on a récupéré aussi beaucoup de très vieilles vignes qui étaient en friche en fait. Quoi. On a passé
un temps tout refaire,
fou. Un temps fou et en fait ça nous a coûté quasiment aussi cher qu'une plantation nouvelle parce que fallait changer tous les pieux, fallait changer tous les fils, fallait remettre des amarres partout, il a fallu, là on vient tout juste quasiment de toutes ces années de finir à remplacer les pieds manquants, quoi.
peut-être se remettre vite au chaud parce que le mois de février est là et mois de février plus fin de journée plus pluie, il fait pas bon être dehors.
Il fait bon être dehors mais en train de bouger à la taille tout ça quoi, pas être statique.
Tes tailles sont bien avancées voire terminées?
Ouais, il nous reste 1,5 hectare à peu près là. On commence jamais avant la. On n'a pas commencé avant la mi-janvier.
Vous avez concentré sur période assez courte?
Ouais, là on a concentré. Bah, alors, ça dépend un peu du personnel qu'on trouve aussi. Moi j'ai qu'un salarié à mi-temps, plus moi. Et puis sinon on a des occasionnels, on a des saisonniers qui viennent nous prêter main forte. Et puis bah là, la semaine dernière, on a eu une bonne équipe là. Donc on était 8 qui sont des bons salariés qui taillent depuis très longtemps et qui font un bon boulot. Donc à 8, on a pas mal avancé, quoi. On a fait plus de 2 hectares et puis bon, bah, nous on s'y est mis avant, les semaines d'avant, on était 2, 3, 4, des fois tout seul, mais bon, on a pas mal avancé. Il nous reste les petits complans, il nous reste encore les chenins dans les zones qui sont les plus gélives, qu'on essaye de tailler à la fin. Les zonisses sont quasiment tout faits, à part les petites plantations.
Il y a de l'eau en surface, là?
Bah, c'est ça. Et alors qu'en plus, là, c'est un coteau quand même qui est très drainant. C'est quand même très rare qu'on puisse ne pas monter en haut de ce coteau-là. Généralement, ça, c'est la première année que je vois autant d'eau dans le bout des rangs. Et en plus, pourtant, on n'a pas travaillé les vignes, on n'a pas pu travailler les sols d'automne. Parce que généralement, on passe un coup de disque à plat dans les rangs en faisant un léger chaussage. Et là, on n'a pas travaillé les sols depuis le mois de juillet. L'année dernière, quoi. À cause de l'eau, disons qu'on aime bien remettre un petit coup après les vendanges, histoire de s'affranchir un peu des levées de graminées, quoi, qui peuvent au printemps, si on n'arrive pas à les prendre à temps à cause de l'humidité ou du gel, ne pas se faire dépasser, quoi. C'est le principal problème de l'herbe, quoi.
Donc on l'a pas précisé, mais oui, tu es en bio, tu es certifié?
Je suis certifié en bio depuis 2007. Ouais. J'ai toujours cultivé les vignes en bio, mais bon, et on a mis un petit moment justement à se certifier, à ce que le vignoble soit à peu près constitué. En tout cas, en 2007, on avait 3 hectares et demi, enfin, on était à peu près comme ça, donc j'ai fait la démarche de certification, même si on a toujours cultivé en bio depuis 2005, depuis 2004, j'ai certifié le vignoble en 2007. Ouais.
Depuis ton installation, au niveau des incidents climatiques, tu en as subi beaucoup?
Bah, on en a eu pas mal, ouais. Enfin, on a eu la chance de tomber quand même, on s'est installé en 2004, 2005, 2006, on a fait quand même 3 belles années. Après 2007, on a eu vraiment une petite récolte. On a concentré un peu les accidents climatiques quand même entre 2012 et 2016, quoi. Donc 2012-2016, je pense aussi que les vignes ont eu un peu quand même de mal à se relever de certaines parcelles, de la remise en culture. Il faut à peu près 7 ans hein, quand on coupe une grosse racine de vigne, quand on reprend le travail des sols, qu'elle se reconstitue. Hein, c'est des processus lents tout ça. Hein, donc on a eu quand même un vignoble qui était soit en friche et qui s'est remis à faire du bois et à refaire un peu de raisin, soit des plantations qui certaines, on n'avait pas forcément les équipements, donc au début on s'est fait un peu déborder par l'herbe ou sur des années de gel après les plantations ou des années de mildiou. Comme 2012, on a des fois des vignes qui n'ont pas produit avant 4 ou 5 ans. Après, dans les dernières plantations, là, on a des vignes qui ont commencé à produire au bout de 2 ou 3 ans, donc c'était plus intéressant pour nous, en tout cas. Mais ouais, entre 2016 et puis 2016, par exemple, c'était la pire année. On a eu vraiment gros de gel avec plusieurs nuits, jusqu'à moins 7.
Ah oui.
Donc là, on a perdu 90%. Hein. On a fait une récolte de 3 hectares, je crois.
Comment on vend ses vins quand on démarre, comme ça qu'on a un vigneron dans un secteur que personne ne connaît objectivement, et pour cause, il n'y a plus de vignes. C'est des réseaux, c'est des salons?
C'est des rencontres, c'est la chance de rencontrer des gens. Bon, moi je travaillais déjà quand même pas mal à Paris quand j'étais étudiant, je montais pendant plusieurs années, donc j'avais quand même déjà des points d'attache, ou en tout cas des points d'attache pour me loger, et quelques connaissances, donc du coup je
connaissais les portes où on pouvait frapper.
Voilà, je suis monté à Paris assez vite, et puis en plus on a la chance quand on monte à Paris d'avoir des gens qui sont toujours curieux de découvrir. Ce qui, quand on va en province au début, n'est pas toujours le cas. Et puis après, l'avantage peut-être aussi, je me suis installé en 2004-2005, les gens qui faisaient du nature à cette époque-là, on n'était pas les
C'était moins nombreux.
Ouais. Voilà, je pense aux gens qui s'installent maintenant. Les vins nature, on en voit partout. Il y en a partout. Et à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, les gens étaient curieux de goûter.
Qu'est-ce qui t'a motivé pour aller dans cette orientation?
Ça a toujours été une évidence. Un peu. Je me suis toujours dit que si on faisait du vin et qu'on soignait le boulot à la vigne, 90% du travail était fait dans les vignes, de toute façon. Et donc, après, fallait s'appliquer au niveau du pressurage et choisir des belles barriques. Mais après, après on a l'environnement, on met en cave, et ça m'a toujours paru assez évident. Je
me suis jamais inquiété beaucoup
pour ce genre de choses, et finalement ça a pas mal marché.
Ça correspondait à des vins que tu buvais peut-être aussi, ou...
C'est ça, ou que je commençais à boire, parce qu'à l'époque j'étais pas au tout début, avant que je m'installe, nature, on n'en voyait pas beaucoup, quoi. J'avais rencontré des gens comme Claude Courtois ou comme Thierry Puzelat, mais c'était un peu les prémices. Moi je me suis plutôt installé un peu dans la nature, un peu sans le connaître, juste par conviction personnelle, et je me suis aperçu qu'en effet j'étais pas tout seul, qu'il y avait déjà du monde qui faisait ça. Mais j'avais souvent cette question avant, les gens me demandaient où est-ce que j'étais allé en stage, qui est-ce qui m'avait formé, et finalement je m'étais pas formé. Alors bon, en 2004, juste avant de m'installer, j'ai travaillé 6 mois, parce que j'ai fait un stage 6 mois de fin d'école, mon stage d'installation que j'ai fait chez donc Eric Nicolas, domaine de Bellivière. J'étais déjà, on avait un enfant, il fallait revenir dans le coin assez vite. Justement, à ma sortie de diplôme d'ingénieur, j'aurais eu la possibilité de faire un DNO, un diplôme d'œnologie en un an, ce qui était ouvert plutôt que de passer 2 ans. On avait la possibilité de le faire en un an après le diplôme d'ingénieur sur Dijon. Mais j'avais déjà trouvé un hectare de vigne à acheter. On avait un enfant, une bouche à nourrir de plus avec ma femme. C'était pas facile.
Il fallait faire dans l'efficacité.
Ouais. Donc, il fallait faire dans l'efficacité. J'avais trouvé ce stage chez Eric Nicolas. J'étais allé chez lui goûter ses vins et il m'avait dit que j'avais vu qu'il avait l'air d'avoir besoin de monde. Donc, après, c'était quelqu'un qui aussi travaillait déjà en bio. Il n'était pas certifié encore. C'était pas complètement en bio, mais bon, c'était déjà sur la bonne voie. Et puis, des vins qui étaient quand même avec assez peu d'intrants, en tout cas, qui étaient assez. Qui étaient sur la route des vins nature. Donc, c'est ce qui m'intéressait. À l'époque, j'avais plutôt demandé à Christian Chaussard qui venait de s'installer dans le coin. C'est à cette occasion-là aussi que j'ai connu par hasard chez Christian Jean-Pierre Robineau qui venait chercher un matériel. On s'est croisés, sa femme était de Vendôme, voilà, on a parlé un peu, puis finalement lui, on avait la même idée, on voulait faire les mêmes vins. Lui par contre, avec sa grande expérience de goûteur et de dégustateur et tout dans l'empirisme et dans l'artistique, moi par contre avec beaucoup de volonté de cadrer les choses parce que éducation plus scientifique, mais finalement on se rejoignait dans le même projet, donc c'est vrai qu'on a aussi beaucoup échangé et je pense que ça nous a tous les deux pas mal guidés.
Ton double cursus scolaire, universitaire, t'a aidé dans ton travail aujourd'hui ?
Je pense, parce que du coup j'avais fait quand même pas mal de, même à mon avis plus la fac, en ayant fait pas mal de physiologie, parce que pour les plantes c'est quand même une bonne, moi j'avais fait physiologie des plantes, j'avais fait de la recherche pas mal, et de la microbiologie, et de la chimie, de la biochimie, donc finalement tout ça c'est des matières quand même
qui touchent directement au monde du vin,
qui touchent directement finalement au monde du vivant en général. C'est ce qu'on essaye de faire, on travaille quand on est dans les vignes, on travaille sur du vivant, sur des plantes, et puis le vin c'est l'accompagnement, donc finalement on travaille sur du vivant toujours et on veut faire des vins vivants, donc on est dans le vivant.
Et la transition est toute trouvée pour peut-être parler des vins directement.
Allez.
We'll be right back.
avant de rentrer dans le vif du sujet de la dégustation chez toi?
Alors combien de cuvées? Bah c'est très variable, hein. On prend ce que la nature nous donne. Donc au début on a fait beaucoup de cuvées parce qu'on avait un micro parcellaire avec beaucoup de toutes petites parcelles qu'on a vinifiées tout à part, en faisant des petites cuvées à part. Et même au début je faisais des mises en bouteille beaucoup à la main, on bouchait au fût par fût. Ça permettait de mettre même souvent le nom d'une cuvée et première pièce, deuxième pièce, troisième
travail
pièce.
De titan.
Bah ouais, mais on a bouché les vins comme ça à la main, la tireuse 4 becs pendant quasiment 15 ans.
Et t'as, avec le temps, rationalisé un petit peu tout ça?
Alors on a rationalisé maintenant, et puis grosso modo, on arrive à faire un pétillant quand la production va bien, plus disons deux blancs et puis deux rouges, donc on a une moyenne de 5 cuvées. Mais dans les années difficiles, on peut avoir qu'un blanc et un rouge.
Premier vin que tu nous sers, donc en goutte sur cuve, hein, 2023, tu nous disais ça fermentouille encore un peu.
Bah, c'est pourtant allé assez vite cette année, mais je vois que ça fermente un peu. Bon, enfin bon, c'est, il doit rester, je sais pas, un demi-gramme à fermenter de sucre. On a des fermentations 2023 qui ont été assez rapides. Ouais.
Alors cette question des sucres, chez toi, comment tu la gères? Parce que c'est souvent, des fois, dans l'inconscient collectif, on associe déjà hier des Coteaux du Loir à des vins avec un peu de résiduel. Comment tu l'abordes, toi, cette question?
Non, bah moi, l'objectif, c'est de faire des vins secs. Alors ça arrive qu'on fasse des vins sucrés, mais sur 20 millésimes, là, on a fait, je crois qu'il y a 3 cuvées où j'ai fait des vins sucrés. Il y a justement, on a bouché un 2020, là, les dorés, donc une vigne centenaire qu'on a pourtant pas ramassé tard, mais en 2020, les potentiels étaient à 14. Finalement, les vins finis font quasiment 14,8 d'alcool et il reste 15 grammes. Les levures ont été hyper efficaces. En fait, elles ont été plus efficaces que ce qu'on avait prévu, enfin que ce qui est dans les livres. Et on se retrouve avec un vin qui a 15 grammes de sucre résiduel, donc un bon gros demi-sec. Donc après, moi, ça m'empêche pas de boucher sans souffle. Là, ça a fait 36 mois d'élevage. On espère même que les vins vont repétillouiller un petit peu, quoi. Ça va leur donner un peu plus de fraîcheur. Et puis de tout ce qu'on a bouché, on n'a jamais vraiment vu de vin qu'on refermentait, enfin qu'on poussait les bouchons pour cause de sucre en tout cas. Quoi.
Toi, la gestion des sucres, quand tu en fais, tu l'atténues par des élevages plus longs pour que tout soit digéré et qu'il n'y ait pas de soucis derrière.
C'est ça, on essaye de faire. De toute façon, on part toujours sur des élevages de minimum un an. Après, sur les blancs, même, on aime bien faire deux ans. Tout dépend du potentiel de l'année. Là, je pense que 2023, par exemple, on ne fera pas beaucoup plus de deux ans parce qu'on va mettre en bouteille, on a déjà des trucs qui sont prêts. Donc, on ne fait pas l'élevage pour le plaisir de faire l'élevage. On fait l'élevage tant que les vins nécessitent d'être prêts, d'être stables. Quoi. Et généralement, on essaye de faire en sorte que les vins soient secs. Je ne suis pas très fan de vins sucrés, donc on fait des vins secs mal au fait pour que justement ils soient stables et puis que ce soit vraiment du vin de table.
Alors, comment tu fais du coup pour. Tu les ramasses quand? À quel degré? Et comment tu gères en vinif pour arriver à des secs?
Bah justement, on essaye généralement de ramasser. À part cette année, on a été obligé de repasser par des tris successives pour laisser mûrir, parce qu'on avait beaucoup de raisins accrochés. Sinon, justement, on ramasse en un seul passage avec une diversité, c'est-à-dire encore des chenins qui sont des côtés qui sont bien dorés, des côtés qui sont botrytisés, et puis encore le versant nord de la grappe qui est encore un peu vert, pour amener à la fois cet équilibre d'avoir à la fois de l'acidité, suffisamment de sucrosité, et puis ramasser avec des potentiels autour de 13, quoi, et pas dépasser beaucoup. 13 ou 13-14. On avait fait une vendange tardive en 2005 où on avait fait des liquoreux qui devaient rester 80 grammes, ou je sais pas, c'est peut-être encore moelleux, 80 grammes, je sais plus si c'est 80 grammes, si c'est liquoreux ou moelleux, mais enfin bon. On avait fait une recherche de botrytis parce qu'on avait une super année, mais sinon depuis, moi je fais pas de vendange tardive. Peut-être que maintenant on a un nouveau pressoir qui nous permet de pressurer des plus petits volumes, donc peut-être qu'on s'y remettra si les années sont propices, mais moi c'est pas tellement mon truc, je préfère faire des vins secs.
Tu termines à combien grosso modo généralement sur tes secs?
Ah, au niveau sucre, généralement si on est sec, on est en dessous de 2 grammes.
Tout ça, il n'y a pas de législation précise sur les secs. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se font. Des fois, à 7 degrés, on dit qu'on est sec.
Quitte à avoir des sucres, je préfère autant avoir un vrai demi-sec qui a 15 grammes et qui ne cache pas ce qu'il est, plutôt que d'avoir, c'est vrai que sur l'appellation, et encore, on n'est pas une des plus libres sur la Loire, puisque nous, je crois que c'est 9 grammes. On a le droit d'appeler ça sec jusqu'à 9 grammes.
C'est bien pour ça qu'entre 2 grammes et 9 grammes, il y a quand même un monde.
C'est ce que les gens appellent sec tendre, là. Mais en fin de compte, en effet, comme ils font pas d'élevage, ils masquent l'acidité naturelle du chenin par ses sucres résiduels, et donc c'est ce qu'ils appellent sec tendre. Mais nous, comme on fait les malolactiques, vu qu'on bouche sans soufre, de toute façon, on fait pas des vins mous. Mais par contre, on veut des vins qui soient secs et qui soient stables. Donc quand je dis sec, non, c'est sec, c'est entre 0 et 2 grammes.
La cuvée qu'on goûte, comment s'appelle-t-elle? Elle vient d'où?
Alors, il n'y a pas encore vraiment de cuvée, puisque nous, on travaille tout en barrique. Donc c'est les cuvées voient le jour que à la fin de l'élevage, quand on fait les assemblages. Donc ça, c'est une barrique de vieille vigne qui vient du terroir des Dorés, de Dissé. Cette vigne a été plantée en 1902.
Des très vieilles vignes.
Ouais, des vignes qui ont 120 ans. 122, enfin bon, 120 ans. Et c'est 2023. C'est dans les raisins qu'on a ramassé quasiment plus tard. Donc avec des potentiels autour de 12,5. Cette année, justement, on n'est pas monté très haut. Et on a la chance que les sucres soient quasiment finis. Les malolactiques aussi. Donc on a des vins qui se profilent pour être bouchés à la fin de l'année 2024.
Jolie matière, du peps. Oui, un bel équilibre déjà en l'état.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais après, on est assez content. C'est des vendanges coûteuses, longues. Éreintante. Finalement, on s'en sort pas mal.
Est-ce que l'on goûte a vocation à être assemblé avec une autre parcelle, avec d'autres barriques ou pas?
Probablement, on va pas boucher la barrique, là, on en a entonné pas mal. Ça va rentrer, je pense que c'est ce qui va rentrer dans la cuvée dans la Belle Égarée. C'est un assemblage qu'on fait avec, on a mis une partie de ces vieilles vignes-là dans des demi-muis neufs, qu'on peut aller goûter d'ailleurs. Donc la Belle Égarée, c'est une cuvée insolite que j'ai créée en 2018. C'est les vieilles vignes qui fermentent dans des barriques récentes, donc neuves ou un vin ou deux vins, et assemblées avec les jeunes vignes qui fermentent en vieilles barriques.
Et on poursuit un dédale de galerie avec des levures bien accrochées au mur.
Ça, c'est la même cuve que ce qu'on a goûté tout à l'heure, mais fermentée en demi-muit. Et demi-muit neuf, là. C'est les demi-muit qui viennent de la tonnellerie du Val-de-Loire, là, qui sont à Courcheverny.
Qu'est-ce que tu attends de ces deux approches en vinif, en termes de complémentarité?
Ah bah c'est la complémentarité, c'est justement, ça va nous amener ici. Quand on est en demi-muit, on n'a pas tout à fait le même rapport à l'oxygène et à l'oxydoréduction en général. On va avoir un peu plus de lit, et puis bon, on va avoir un peu plus de bois, bien sûr.
Tu travailles sur les lits, justement, qui va nourrir ton vin que t'attends avec ces contenants?
C'est ça. C'est de travailler surtout en fermentation à basse température. On est en cave entre 12 et
14. Là, on est tranquille.
On est à 12 et 14 degrés et en petit volume pour faire une oxydation qui est ménagée et avec un élevage sur lit qui va à la fois aussi protéger les vins.
Tout ça va être assemblé avec ce qu'on a goûté juste avant.
C'est ça.
Dans l'absolu.
C'est ça. Ah, mais bon, on n'est pas encore au moment de l'assemblage. Comme aussi, on travaille en fût, on a un parc à barriques à préserver. Et du coup, en fonction de ce qu'on va entonner l'année prochaine, il va falloir qu'on libère de la place de la récolte 2023. Et donc, évidemment, c'est ça aussi qui nous incite et qui nous dit, s'il y a des choses qu'on va élever un peu plus longtemps pour attendre la récolte 2025, ce qui peut se garder 2 ans, on va le garder. Il y a des impératifs aussi techniques de récolte qui succèdent.
Le fût, pour toi, c'est ce que tu privilégies d'autres contenants T'intéresse pas, t'intéresse peu, t'intéresse moins?
Si, bien sûr. En tout cas, en cuve, on vinifie uniquement les pétillants en cuve, parce qu'on met en bouteille très tôt. Sinon, l'avantage, c'est qu'on est en cave, donc là, être en cave, c'est ce qui se prête le mieux à être en fût. Après, c'est pas inintéressant de travailler en amphore, c'est encore un coût supplémentaire. C'est aussi une fragilité de certaines amphores. On est en train de voir si on va pas peut-être recréer un deuxième chai à côté, suite aux replantations qu'on est en train de faire. Peut-être qu'on pourra pas passer tous les volumes en fût, qu'on gardera peut-être plutôt toutes les très vieilles vignes, et si on a un peu plus de jus sur les jeunes vignes, peut-être qu'on travaillera un peu en amphore. Mais voilà, il faut construire encore un bâtiment, il faut s'équiper, et pour l'instant on n'a pas la place d'avoir des amphores enterrées. Donc c'est dans les projets, mais c'est pas encore concrétisé.
Ça donne beaucoup d'allonge, beaucoup d'élégance au vin, ce passage en foudre. Non pas que l'autre n'était pas élégant, mais ma perception, je trouve que ça le tend, ça l'allonge et ça lui donne beaucoup de classe.
Ah ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que ça marche pas mal, le bois sur les chenins. Et même les bois neufs, parce que ça, c'est quand même assez marqué. Parce
oui,
que là,
on sent.
Ouais. C'est quand même sur un bois neuf. Mais j'ai fait goûter parfois des cuvées où on a ébouché. Au début, on m'a un peu reproché quand je me suis installé au tout début. J'avais pourtant pas acheté de fût neuf. On travaillait en fût d'occasion. Alors maintenant, on renouvelle tout le parc régulièrement avec des fûts neufs, parce que je préfère faire mes fûts moi-même. Mais au début, oui, on me reprochait un peu, il y a du bois, les gens voulaient plus voir de bois. Bon, moi, je suis pas tellement d'accord, je trouve que ça va pas mal au chenin, et même au Pinot de Nice. Bon, faut voir cette minéralité. Comme les amphores, j'étais assez séduit de ce que j'ai goûté dans le sud. Mais en Loire, j'ai pas été très convaincu pour l'instant. Après, j'ai fait quand même quelques belles dégustations à droite à gauche. Peut-être qu'on va y venir, mais en tout cas, les vinifications de chenin en cuve inox, qui finissent par sauvignonner, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà.
L'année qui est un peu plus fermée.
Ah bah là, ça, c'est un peu plus fermé, c'est un peu plus tendu. C'est des vins, là-bas, là, les vins qu'on vient de goûter, c'est des vins qu'on fait remonter en barrique et qui viennent de se terminer il n'y a pas si longtemps. Donc ils sont quand même un peu plus ouverts encore. Ça, c'est des vins qui sont quasiment finis depuis le mois de novembre. Je trouve qu'on a quand même du gras. C'est ce qu'on avait sur ces millésimes 2017, 2011, des millésimes assez froids comme ça, où les vins étaient un peu fermés en cave. Et puis bon, là, on est au plein cœur de l'hiver, donc c'est souvent que les vins sont à ce stade-là un petit peu étriqués, quoi. Mais je trouve qu'on a un joli fond, on a un beau potentiel. Quand on va assembler ça et qu'on va reprendre un coup d'air là avec le printemps, je suis assez confiant.
Envoyé, ouais. Voilà. Donc oui, pour expliquer ta gamme un petit peu, C'est, oui, c'est la cuvée.
C'est la première cuvée d'attaque qui est faite sur les jeunes vignes. Alors là, du coup, ce ne sera pas uniquement les jeunes vignes, puisqu'on a fait du tri dans toutes les vignes. Donc on est passé dans les jeunes vignes et aussi dans les vieilles vignes. Et donc, c'est un assemblage aussi.
La seconde cuvée, c'est cette cuvée-là, la Belle Égarée, qui est née il y a quelques années.
Et puis après, on a des cuvées un peu plus spécifiques. Sur les vieilles vignes uniquement, on a la Désirée, qui est une cuvée qui est élevée au moins 24 ou 36 mois, qui est faite souvent sur les hauts de coteaux, un peu plus qu'est sur les perruches. Et puis quand on met à part, il y a les dorés, comme là, ce qui a été fait en 2020, où là, c'est souvent sur les vieilles vignes aussi, mais sur les mi-pentes, et donc là, sur les coins où il y a plus d'argile. Par exemple, sur Odyssée, c'est un petit peu l'inverse au niveau de l'argile, mais que sur Bueil. Bueil, on a plus de cailloux dans le milieu de pente, et sur Odyssée, c'est plus de cailloux sur la rupture de pente.
Et le Pinot de Nice dans tout ça ?
Et le Pinot de Nice, on va aller goûter. On peut goûter quand même pour finir encore un blanc. Tiens, ça, c'est des blancs qui sont pas finis, justement.
Ça, c'est les blancs qui vont rentrer dans la cuvée La Désirée.
Moins de 10 grammes, mais en tout cas, on a encore une activité levurienne assez intense, alors que quand même, on a eu froid dans la cave.
Ça gigote toujours, donc.
Et ça pétille toujours, les jus sont troubles.
On n'est pas au même stade d'évolution par rapport à ce qu'on a goûté juste avant.
Voilà, on est beaucoup plus précoce, quoi.
On change de couleur.
Alors là, on passe sur les onis. Alors ça, c'est des jeunes onis. C'est justement les onis qu'on a complantés. Donc, c'est des petites parcelles.
Onis complantés, tu veux dire que
c'est les dernières vignes plantées. Donc, c'est des vignes qu'on a été plantées en 2019. Là, pour les
avec derniers. Des massales différentes, du coup
avec des massales différentes. Et qui sont, vu qu'on a complanté aussi depuis ces dernières années... Et on a des petits complants dans les jeunes vignes qui commencent à produire et qui sont mûres bien avant les vignes centenaires. On va les ramasser avant, histoire de ne pas les perdre. Donc ça, c'est 2023.
Déjà un nez qui est superbe, là.
Bah, 2023, on a un bel équilibre, parce que autant 2021, on avait vraiment des jus qui étaient très légers. Les rouges étaient plutôt jolis, et finalement, on a eu des Suzuki, on n'avait pas eu depuis 2014. Et là, elles sont réarrivées en 2021, et ça nous a obligé à trier beaucoup, et donc on a fait des petites macérations. Et donc on a eu des jus hyper légers sur 21, qui étaient un beau millésime quand même, mais qui étaient des jus légers. Et 2022, qui par contre, là, on a eu des grosses maturités avec des pépins noirs, des gros degrés, et avec des vins, par contre, avec des gros potentiels, des structures tanniques énormes.
Et là, on a vraiment l'équilibre, à mon avis, assez chouette entre les deux millésimes.
À la fois, une structure tannique qui est quand même relativement fine et serrée, mais un joli fruit.
Beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tonicité. Enfin, c'est un peu propre au cépage, mais particulièrement, je trouve.
Ouais, c'est vraiment ce qui nous a manqué un peu sur 22, qui va être très bon, mais qui va avoir besoin de garde, quoi. On sait qu'au printemps prochain, au printemps 2024, parce qu'on va boucher les vins quand même, on va aller leur finir l'élevage. Ils ne seront pas mis en bouteille avant la fin de l'année, quoi. Ça va leur faire du bien quand même d'avoir un an d'élevage. Mais...
Donc ça rentre dans quelle cuvée ?
Ça va rentrer dans la cuvée à Denis. Ça va être assemblé avec la cuvée à Denis. Qui est l'assemblage du coup de tous les onis, de jeunes à vieux, mais non spécifiques. Sachant que l'autre cuvée, c'est l'enchantresse, et l'enchantresse, c'est uniquement les vignes centenaires, avec un élevage qui peut varier de 12 à 36 mois. Pour Adonis, c'est uniquement 12 mois.
C'est intéressant parce qu'on est à 4 barriques de l'autre. Alors c'est une autre parcelle, c'est une autre...
Alors là, c'est une autre cuve du coup, parce qu'en effet, comme je le disais tout à l'heure, pour la première cuvée, c'est des petites jeunes vignes qu'on a replantées. Donc c'est deux petites parcelles. Et puis c'est des complants qui viennent de toutes les vignes de rouge où on a mis des complants. Donc c'est un peu tous les terroirs rassemblés, mais qu'avec vraiment les premières grappes des petites jeunes vignes. Donc on est très sur le fruit,
mais avec par rapport à ce qu'on a goûté juste avant, moins de précision, moins de définition.
On est sur quasiment des vignes qui sont plus âgées, qui sont autour de entre 40 et 80 ans, quoi, et qu'on m'a serré donc dans une autre cuve, une cuve de 60 hectos, parce que je travaillais aussi en cuve en bois. Ça, on a ramassé ça un petit peu plus tard. Alors ça a dû fermenter aussi un peu plus vite. Et du coup, on n'est pas non plus au même stade. Parce que là, on passe un peu sur une autolyse, quoi, si tu veux, quoi. On a déjà plus de réduction, même si on entonne maintenant à la fois sur l'île assez fine. Et puis de toute façon, même cette cuvée-là, on peut goûter quelques fûts, mais tu vas voir, il n'y en a pas une qui goûte pareil. C'est ça qui est intéressant avec l'assemblage derrière de plusieurs fûts, c'est qu'on va amener beaucoup de complexité, quoi.
Tu sacrifies des cuves comme ça parfois par rapport à leur qualité ?
Après, on fait vraiment un tri sévère avant d'entonner, donc on sait très bien ce qu'on a mis dedans. Et puis là, ça fait on renouvelle le parc à barriques depuis 2017, depuis 2018. Donc là, quasiment toutes les barriques ont moins de... On a acheté que du neuf. Dès qu'on a des bois qui coûtent mal, en fait, on les met de côté directement, en effet, quoi.
Alors, tu nous parlais de l'enchantresse. Il n'y aurait pas une barrique d'enchantresse pas loin d'ici qu'on pourrait goûter ?
Alors ça, c'est pas une neuve, mais c'est une barrique qui doit avoir un vin, je pense. C'est une 22. Et ça, c'est du coup, c'est pas la tonnerie de Loire, c'est chez ces Bourguignons. 22, donc c'est-à-dire que c'est son deuxième vin. 22, c'est l'âge du fût.
D'accord.
Il a été fabriqué en 2022, mais c'est du 2023. D'accord. C'est les Enchantresses 2023. Donc plus de profondeur sur ce.
Ah oui, plus d'ancrage.
Voilà. Sur les vignes centenaires comme ça, on est vraiment sur les poivres noirs. C'est toujours les terroirs qui sont très mûrs, qu'on laisse mûrir aussi, qu'on ramasse souvent à la fin, et qu'il faut une macération un peu plus longue aussi.
Quelle différence par rapport à ce qu'on a goûté précédemment ?
Là, on est sur une macération de quasiment un mois.
Ah oui ?
Voilà, c'est presque un mois.
Et qui sera accompagné d'un élevage aussi plus long, j'imagine ?
Alors, si on a la place, si on a le temps, si le vin se comporte bien, commence à goûter à la fin de l'année, on a fait sur les Enchantresses des élevages de 24, même une année, je crois qu'on a fait 36. Donc quand on a fait 24, c'est déjà pas mal. Ça aurait été pas mal de pouvoir faire 24, par exemple, sur les Enchantresses 2022. C'est un peu le souci qu'on a. On a des fois des bonnes années qui succèdent et des mauvaises années qui succèdent aussi. Ce serait pas mal d'avoir une mauvaise année tous les 3 ans, ce serait un peu moins gênant que dans ce temps que s'en taper 3 de suite, et après d'avoir 3 bonnes années de suite. Mais bon, faut faire avec. Donc on ajuste les élevages par rapport à ça, surtout.
Ce jus m'impressionne par sa présence, enfin, il est très imposant. Ouais. Loin de l'image qu'on peut avoir de l'onis en général, je dirais même c'est l'antithèse.
C'est vrai que c'était en plus, par exemple, ce vin-là, souvent, bon, c'est vrai qu'on a ce côté, en plus, on a le côté un peu bois. J'ai fait plusieurs vinifications, souvent, des fois que j'ai vinifié jusqu'en cuve, parce qu'on m'a souvent reproché que ces jus-là, justement, c'était trop concentré, et même il y avait du bois, c'était trop présent et tout. J'ai fini par changer de tonnelier, changer de fût, des fois le vinifier en cuve, et on me faisait les mêmes remarques. Et en fait, c'est vraiment cette vigne-là, sur ces vignes centenaires, qui ont cette concentration, qui ont cette présence, qui ont cette puissance. Et même vinifié en cuve, on a vraiment, je pense que ça vient vraiment de l'âge de la vigne, et ce terroir-là qui est vraiment intéressant. Quoi. Après, c'est un peu une fausse idée. C'est vraiment le style de vinification qui fait qu'on a l'impression que les onis ne se gardent pas. Alors qu'en fait, on a retrouvé, nous, dans les caves, quand j'ai acheté ici, moi, on a retrouvé des vieux onis qui avaient des fois 40 ou 50 ans et qui étaient en fait sublimes. Et on a rouvert, par exemple, là, on a rouvert, on l'a dit, là, des onis des 2007, 2009, 2010 et même des 2011, qui étaient pour des petits millésimes, pas forcément de trait de garde, et qui étaient sublimes et sans soufre.
Qui plus est.
Ouais.
Tes projets, quels sont-ils sur ton domaine? Tu nous as parlé de nouvelles plantations, potentiellement nouveaux locaux.
On a des bâtiments encore à faire pas mal, parce qu'on a, voilà, on a toujours un peu de trajet pour amener les vins d'une cave à une autre, jusqu'au lieu d'étiquetage, des expéditions et tout. Donc on a encore des plantations à faire, on a encore de l'amélioration encore un peu dans le vignoble, on a toujours on a un bâtiment, donc peut-être un nouveau chai si on veut travailler en amphore dans quelques années, qui serait pas mal. Donc on a de la place, on a un peu de terrain, on pourrait faire un bâtiment. On a un autre hangar agricole qu'il faudrait pour ramener le matériel ici, ça nous ferait économiser un peu de temps, quelques kilomètres entre les parcelles et le matériel, et quand on est en jambeur à 15 à l'heure, ça compte. Et puis un autre bâtiment qu'on voudrait faire devant, là aussi, devant les caves, petite chaumière, l'accommoder un peu en caveau de dégustation, et puis un autre bâtiment pour étiqueter, où on puisse être au sec, sur un plancher isolé, une dalle isolée, et un bâtiment un peu plus climatisé, parce que là, du coup, on peut pas étiqueter dès qu'on a des temps comme ça, avec de la flotte. Du coup, on a une rivière souterraine là-bas sous la ferme, et du coup, on a des humidités qui remontent par capillarité, et on peut pas étiqueter, donc on peut rien foutre, on peut pas les tailler, on peut pas étiqueter, on peut pas, voilà. Donc non, il y a toujours beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de projets.
Et on va te remercier de ton accueil.
Mais je t'en prie.
Du temps que tu nous as accordé. Et...
Tu parlais des 2 heures avant que vous arriviez.
C'est ça. Et on va te libérer pour ta soirée, peut-être.
Non, mais il y a pas de souci.
Domaine La Grapperie Renaud Guettier, entre la Loire et le Loir. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Nolwenn Moquet. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.